Bonjour Swazik, on vous retrouve comme tous les jours, mais pas pour votre chronique habituelle, cette fois-ci pas pour des objets, pour un monde, mais plutôt pour un autre écho de l'écho, et où on parle aujourd'hui de la Chine qui fait les yeux doux à l'Europe.
Eh oui, bonjour Marie. En effet, le 30 décembre dernier, un accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine a été conclu après 7 années de pourparlers. Alors là, il ne s'agit pas de réguler les flux de produits, mais plutôt de réglementer les entreprises chinoises installées dans l'Union européenne et les entreprises européennes installées en Chine. Alors, quel bénéfice peut-on attendre de cet accord? Eh bien, pour l'Union européenne, il s'agit, je cite, d'un accès sans précédent des entreprises européennes au marché chinois, ce qui va permettre une, je cite encore, égalité des conditions de marché. Alors, si cet accord est censé favoriser une égalité de marché, je me dis que c'est donc jusqu'ici, ça n'en a pas été le cas. Et là, Marie, vous me dites.
Ah bon, mais pourquoi n'était-ce pas égalitaire?
Eh bien oui, c'est curieux, n'est-ce pas? Alors, en effet, il y a quand même certaines choses qui sont assez surprenantes dans les traités qui ont préalablement été signés entre l'Union européenne et la Chine. Je vous explique. Par exemple, ce traité doit interdire les transferts de technologies forcés. En effet, jusqu'alors, quand une entreprise de haute technologie voulait s'implanter en Chine, il lui était obligatoire d'employer des salariés chinois de façon à ce que ceux-ci s'imprègnent de ces technologies et les transfèrent dans les entreprises chinoises. Ça vous paraît incroyable? Sauf que tous les pays occidentaux se sont pliés à cette demande de la part de la Chine, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis. D'autre part, les marchés publics européens sont entièrement ouverts à l'international, l'Union européenne étant farouchement attachée à un libre-échange absolu. En revanche, la Chine, elle, verrouille sans complexe l'accès à ses appels d'offres nationaux. C'est pour ça que, par exemple, la Chine a racheté le port du Pirée en Grèce ou l'aéroport de Toulouse, mais ça aurait été strictement impossible dans le sens inverse, c'est-à-dire que ni l'Union européenne ni les États-Unis ne peuvent acheter quelque investissement national que ce soit chinois. Vous comprenez bien, Marie, qu'il était temps d'égaliser les conditions de marché. Alors, toujours aussi bizarre, le dogme européen pour le libre marché empêche les pays de subventionner leurs entreprises, ça pour éviter la concurrence déloyale. En revanche, les subventions ne sont absolument pas interdites en Chine, et vous comprenez bien que le Parti communiste chinois, qui a la mainmise sur l'économie, ne s'en est absolument pas privé. Alors, pourquoi les États-Unis et l'Union européenne ont-ils toléré de telles distorsions de concurrence? Eh bien, ça, c'est un mystère, Marie. Alors, à moins de considérer comme aveuglant le dogmatisme européen sur les bienfaits du libre-échange absolu, et ça, je sais de source sûre que c'est le cas, ou alors avoir pris les Chinois pour plus naïfs qu'ils ne sont, et je pense que ça y joue aussi. Alors si cet accord met fin aux privilèges chinois, on peut se poser la question des intérêts de la Chine dans un tel accord. Après tout, ils dominaient, comment ça se fait qu'ils ont accepté finalement des restrictions à leur commerce international? Ben là encore, c'est très confus. Alors, surtout si l'on se souvient qu'en 2015, Pékin adopte la stratégie, je cite, Made in China 2025. Avec cette stratégie, il s'agit d'assurer à la Chine un leadership technologique et une autonomie dans 10 secteurs industriels clés, comme l'aéronautique et le spatial, les trains à grande vitesse ou la mobilité électrique. Dans ces secteurs, les innovations chinoises, encouragées par les subventions de l'État, devront à terme remplacer les importations de l'étranger, a décidé Pékin. Il semble donc clair que la Chine se soucie du libre-échange avec le reste du monde, mais comme d'une guigne. Alors on peut se poser la question, la Chine ferait-elle quelques concessions pour mieux pénétrer le marché européen? Eh bien, rappelons-nous, là encore, le discours du président chinois devant l'ONU le 22 septembre dernier. Il y défendait, mais sans rire, le multilatéralisme, la coopération internationale, l'aide aux pays en voie de développement et la protection de l'environnement. Et c'est là, je crois, qu'on voit bien la stratégie de Xi Jinping. Il veut se poser en anti-Donald Trump. Concéder quelques miettes réglementaires aux vieux pays industrialisés pour mieux s'imposer comme nouveau phare de la mondialisation. et finalement retrouver la place qu'occupait la Chine jusqu'au XIXe siècle. Sachant que la Chine pourrait devenir la première puissance économique mondiale en 2025, voilà ce qui est, à mon avis, bien plus éclairant sur les intentions de Pékin. Alors, quant aux intérêts de l'Union européenne, ils sont clairs. Il s'agit surtout de soutenir les exportations allemandes d'automobiles, de machines-outils et de chimie vers la Chine. D'ailleurs, la signature express de cet accord a surtout été l'initiative d'Angela Merkel. Alors, on voit bien hein, quelle importance que la Chine soit à l'origine du coronavirus, quelle importance qu'elle bafoue les droits de l'homme à Hong Kong ou pour 750 000 Ouïghours, qu'elle envahisse le Tibet, qu'elle rachète petit à petit l'Afrique, qu'elle tienne des discours contradictoires et tisse une toile mondiale par le renouveau des routes de la soie. Peu importe que la mondialisation contribue dramatiquement à la crise écologique, business is business. Souhaitons simplement que la petite Europe perde de son ego pour se rendre compte, comme le disait Alain Perfit, que la Chine s'est bel et bien éveillée et que nous devrions bel et bien nous mettre à trembler.